France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le nouveau bac présenté ce matin au Conseil des ministres, il va comporter 4 épreuves écrites et un grand oral. Précision sur ces nouveautés avec Maïwenn Bourdon dans un instant. Le groupe britannique d'enseigne de bricolage Kingfisher annonce la suppression de plus de 400 postes dans les magasins Castorama et Brico Dépôt, dossier suivi par Annabelle Grelier. Le mandat de la présidente de France Média Monde, qui regroupe France 24 et RFI, Marie-Christine Saragosse, annulé faute d'avoir transmis dans les délais des déclarations de patrimoine et d'intérêt. Explication d'Abdelhak El Idrissi. À l'étranger, en Israël, après les recommandations de la police qui préconise que M. Netanyahou soit inculpé pour corruption, le Premier ministre fait face à des appels à la démission. Correspondance d'Étienne Monin. La réunion ministérielle de l'OTAN, aujourd'hui et demain à Bruxelles, elle pourrait constituer une mise à l'épreuve de l'unité de l'Alliance Atlantique en raison notamment des tensions entre les États-Unis et la Turquie sur la Syrie. Analyse avec Eric Biegala, l'invité de la séquence interview. Jean-Yves Rochex, qui est professeur de sciences de l'éducation à Paris 8. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
On va rouvrir le dossier de nos données personnelles. Faut-il les monétiser, c'est-à-dire reconnaître à chacun un droit de propriété sur ces données? Ce sera le point de départ de notre discussion avec notre invité, le sociologue Antonio Cassilli, qui sera avec nous pour la deuxième partie de la grande table.
Et tout de suite donc le nouveau bac présenté en Conseil des ministres. Il va comporter comme prévu 4 épreuves écrites et un grand oral. C'est une refonte qui va s'accompagner aussi de changements au lycée, des changements qui doivent encore être précisés, dont les contours doivent être précisés. Maïwenn Bourdon, bonjour.
Bonjour.
Alors ces deux réformes sont évidemment liées, celle des lycées et celle du bac. Comment se présenterait dorénavant le dernier cycle du secondaire?
Fini les séries L, ES et S. Elles seront remplacées par un tronc commun de 16 heures hebdomadaire au programme français, philosophie, histoire géo, deux langues vivantes et éducation physique et sportive. Les élèves devront également choisir 3 spécialités en première, puis 2 en terminale sur une liste de 8 au total. Mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, histoire géo et géopolitique, sciences économiques et sociales, littérature et philo, langue et littérature étrangère. Jean-Michel Blanquer souhaiterait également ajouter une nouvelle discipline intitulée humanité numérique et scientifique.
Voilà, on verra tout à l'heure ce que c'est avec notamment Antonio Cassilli qui est avec nous dans ce studio déjà pour la dernière partie de la grande table. Beaucoup de réactions en tout cas dans les milieux syndicaux, dans les milieux politiques aussi, avec un certain nombre de critiques que vous avez pu relever ce matin.
Et la première, la prise en compte du contrôle continu dans la moyenne du bac. A priori, les notes des bulletins des 2 dernières années, donc de première et terminale, compteraient pour 10% en plus des 4 épreuves écrites et du grand oral du bac réformé. Pour les syndicats enseignants, cette mesure va forcément créer des inégalités entre les lycées. C'est ce que souligne Valérie Sipahi-Malani. Elle est secrétaire générale adjointe du SNEF FSU.
Actuellement, le contrôle continu, il est totalement ficelé par le baccalauréat. Donc, il est cadré par le baccalauréat. Si on enlève le baccalauréat, le contrôle continu ne sera plus cadré. Et ce qu'on constate, par exemple, dans les collèges, c'est que le contrôle continu d'un collège de centre-ville n'est pas du tout de la même hauteur, il n'est pas du tout conçu de la même façon que le contrôle continu d'un collège en difficulté, en éducation, avec des élèves de milieu populaire en éducation prioritaire. Le contrôle continu, il relève du contrat entre le prof et l'élève. Et donc, ou entre le prof et sa classe. Si vous voulez utiliser le contrôle continu pour en faire une certification ou pour en faire quelque chose au niveau du baccalauréat, là, vous allez avoir un baccalauréat dont la valeur sera fonction de la réputation de l'établissement. Donc la question du choix du contrôle continu, c'est un choix politique. Est-ce qu'on veut avoir un baccalauréat qui ait une valeur nationale sur le territoire ou est-ce qu'on veut un examen qui sera un examen avec une valeur locale ?
Autre critique, la moindre importance accordée à des matières comme les maths ou la physique-chimie qui deviennent des spécialités. Le bac à la carte ne convainc pas vraiment les syndicats enseignants. Comment s'assurer que tous les établissements puissent proposer les mêmes 8 spécialités? Avec quels enseignants, notamment pour cette nouvelle matière hybride, humanité numérique et scientifique inclus dans le tronc commun? Les syndicats s'inquiètent également des combinaisons de spécialités. La formule est floue, impossible pour l'instant de savoir si les élèves pourront associer les spécialités de leur choix ou s'ils devront choisir des couples déjà formés. Enfin, autre critique, le bac deviendrait un examen de spécialiste. Les élèves ne sortiraient pas du lycée avec une solide culture générale.
Merci beaucoup Maïwenn Bourdon pour toutes ces précisions. On attend encore donc des détails dans la conférence de presse que va donner dans un instant Jean-Michel Blanquer. On salue l'invité du journal, Jean-Yves Rochex. Bonjour.
Bonjour.
Professeur à Paris 8. Alors, quelles sont les critiques que vous reprendriez à votre compte et celles que vous ajouterez peut-être à celles qu'on vient d'entendre?
Non. peut dire trois choses rapidement. La première, c'est la précipitation avec laquelle tout se fait. L'aide de mission 10 novembre, rapport Mathieu 24 janvier et annonce 14 février. On irait aussi vite pour réformer le transport aérien. Les catastrophes seraient au programme tout de suite. Deuxième remarque, c'est qu'on ne sait pas très bien à quelles questions cette réforme se propose de répondre. Et le rapport Mathieu, il n'y a aucune donnée de recherche. Les rapports antérieurs sur le lycée sont totalement ignorés, y compris celui de Madame Belloubet, qui est la collègue de Monsieur Blanquer. Troisième remarque, c'est qu'un certain nombre de mesures qui viennent d'être évoquées, à la fois la spécialisation, l'individualisation et l'importance accrue du contrôle continu, ne traitent pas la question majeure de notre système éducatif, à mon sens, qui est celle des inégalités sociales et territoriales, voire même on peut considérer qu'on a toutes les chances de penser qu'elles s'accroîtront si ces mesures sont mises en œuvre de manière drastique.
Je reprends votre point 2 rapidement. À quelles questions cette réforme répond ? Vous avez peut-être une idée.
Je pense qu'elle ne répond pas à des questions, elle répond à des injonctions. C'est-à-dire qu'on a une annonce pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron qui dit on va réduire le baccalauréat. Et puis, à partir de là, se décline le rapport Mathieu qui répond à cela. Et en cohérence avec la réforme de l'enseignement supérieur qui est introduit sous réserve, sous prétexte d'attendu dans les universités, introduit plus de sélection au motif qu'il faut lutter contre le tirage au sort qui a concerné moins de 0,5% des sortants de baccalauréat l'an dernier, ou des candidats à APB. Donc on voit bien que le tirage au sort est un prétexte, qui fait que je défends évidemment pas, est un prétexte pour avancer vers une mise en cohérence lycée-université, bac moins 3, bac plus 3, sur un modèle très individualiste et qui ne peut qu'accroître les inégalités sociales entre élèves plus ou moins disposés à faire des choix raisonnables, rationnels, dans les contraintes qui sont les leurs.
Jean-Yves Rochex, merci. On va revenir tout à l'heure, donc à la fin de cette édition, à la séquence interview sur la logique peut-être à l'œuvre dans l'ensemble de ces réformes dans l'éducation. On salue aussi l'invité de la dernière partie de la grande table, Antonio Casilli. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jean-Michel Blanquer, on l'a dit tout à l'heure, va ajouter cette nouvelle discipline qui s'appellerait humanité numérique et scientifique. Bon, j'imagine que vous, peut-être, vous avez une idée de ce que ça peut contenir, parce que les syndicats, au sortir de leur réunion hier, ont dit, on ne sait pas trop ce qui va être enseigné dans cette matière-là. Humanité numérique.
Alors, il se trouve aussi que c'est ce que j'enseigne à l'université. Donc, en effet, les humanités numériques sont une discipline qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'est imposée au niveau universitaire, et qui consiste, en gros, à injecter des méthodes computationnelle dans les sciences humaines et sociales. J'insiste sur le fait que c'est pas seulement les sciences humaines, malgré le fait qu'on les appelle digital humanities, humanité numérique, donc en l'occurrence, mais donc on peut, par exemple, étudier la littérature ou l'histoire en adoptant des méthodes qui sont héritées ou empruntées de l'informatique, par exemple, en exploitant des grandes masses de données, en faisant de l'analyse de graphes. Et c'est aussi une manière, par exemple, d'élargir, d'une part, la vision que les élèves peuvent avoir de ces disciplines et de les adapter aussi à ce qu'ils font chaque jour sur leur ordinateur ou smartphone, c'est-à-dire de les articuler avec leurs usages numériques.
On voit bien l'utilité, par exemple, pour l'analyse des discours, mais un autre exemple peut-être qui pourrait parler aussi.
Un autre exemple, c'est par exemple d'arriver à comprendre par-delà les discours qui se cachent derrière, c'est-à-dire quels sont les graphes sociaux des personnes qui parlent. Et donc, par exemple, des grandes expériences d'humanité numérique il y a quelques années, c'était par exemple de retracer les réseaux sociaux de lettres du XVIIIe siècle entre les encyclopédistes. Et donc de faire véritablement une analyse géographique et en termes de socialité de ces intellectuels du passé.
Antonio Caselli, merci beaucoup. Merci. On vous retrouve donc pour la dernière partie de la grande table. On revient sur les propos du chef de l'État tenu hier devant la presse présidentielle. Emmanuel Macron a dit son souhait de faire émerger une nouvelle force au Parlement européen, peut-être au lendemain, dit-il, des élections de 2019, afin de faire exploser aussi à ce niveau d'ailleurs le duopole entre la gauche et la droite, entre le Parti populaire européen et les socialistes européens. Pour expliquer globalement son état d'esprit, M. Macron a déclaré notamment qu'il n'était pas l'enfant naturel de de temps calme de la vie politique, mais le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, d'une effraction, parce que la France était malheureuse et inquiète. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous avez assisté naturellement à cette rencontre hier soir avec le chef de l'État. Comment faut-il comprendre cette phrase, notamment ces mots, donc de fruit d'une forme de brutalité de l'histoire? Qu'est-ce qu'elles disent, ces paroles, sur le rapport de M. Macron avec précisément l'histoire?
Vous avez extrait ici la conclusion de près de 2 heures de questions-réponses. La question était: comment vivez-vous depuis le mois de mai l'épreuve du pouvoir? Emmanuel Macron commence ainsi: j'ai pris la part du poids de la charge. Il marque une pause, regarde vers le ciel. Il poursuit: j'ai pris la part de la solitude qu'elle implique, de la fin de l'innocence qu'elle décrète, mais je ne crois pas que ce soit une épreuve. Ensuite, c'est de lui-même qu'il va expliquer pourquoi et dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir, ce qui, entre les lignes, vous allez l'entendre, le valorise presque à l'excès, décortiquant phrase par phrase. Je ne suis pas l'enfant naturel de temps calme de la vie politique. Il aime à répéter qu'il n'est pas un de ces rois fainéants qu'a connu le pays, ou qui l'ont géré avec des marges de manœuvre budgétaires presque infinies, et tant pis pour la dette. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire. Ça, c'est pour la fin de cycle politique, l'usure des vieux partis dont il a accéléré la désagrégation en cherchant à abolir les clivages. Il y a participé. Brutalité renvoie aussi à son face-à-face avec Marine Le Pen et ce mantra binaire: moi ou le chaos. Enfin, je suis le fruit d'une effraction. Ce serait donc presque comme un hasard, l'addition de concours de circonstances favorables, de planètes qui s'alignent. Il y a mis beaucoup de gravité, Antoine. Il a mis en garde aussi, finalement, les journalistes et les citoyens, en disant et en concluant comme cela: si j'oublie tout ça, façon de dire vous aussi, nous aussi, si vous oubliez tout ça, c'est là où l'épreuve commencera.
Merci beaucoup, Ludovic Piétenu, pour cette analyse donc des propos tenus hier par Emmanuel Macron. Le groupe britannique d'enseigne de bricolage Kingfisher annonce en comité central d'entreprise, ça se passe à Templemars dans le Nord, la suppression de plus de 400 postes dans plusieurs magasins, notamment magasins Castorama et Brico Dépôt. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Occasion de voir en quoi ces magasins de bricolage sont aussi apparemment affectés par l'évolution dans la grande distribution.
Eh bien, tout comme les hypermarchés dans la grande distribution. En effet, les magasins géants de bricolage et de décoration doivent sans cesse se réinventer pour rester attractifs. La digitalisation est là aussi en marche pour continuer de séduire les clients via des applications et les réseaux sociaux. Car le prix et le vaste assortiment ne suffit plus pour faire face à la concurrence. Alors pour rétablir sa compétitivité, la direction a évoqué hier dans un communiqué la poursuite du déploiement de son programme d'investissement informatique, la mise en place d'une centrale d'achat unique, des évolutions de métiers du marketing et du commerce, ainsi que la création d'un centre de services partagés en Pologne pour gérer ses activités de transactions financières et comptables. Il y a eu de la part de la direction un manque d'anticipation du commerce sur Internet, critiquent les syndicats. Mais si le chiffre d'affaires régresse, les résultats opérationnels et les actions progressent tous les ans et c'est pour donner toujours plus de dividendes aux actionnaires, s'insurge-t-il. En effet, le groupe Kingfisher a promis de verser 700 millions d'euros de dividendes supplémentaires à ses actionnaires à l'horizon 2020. La pression est donc forte sur le groupe, mais 400 suppressions de postes annoncées alors que l'enseigne a déjà touché 30 millions d'aides publiques en France au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, pose tout de même question. Le plan de transformation devrait entraîner la création d'une centaine de postes de nouveaux métiers, répond la direction. Pas sûr que cela soit de nature à calmer les syndicats.
Annabelle Grelier, merci. La présidente de France Média Monde, qui regroupe France 24 et RFI, Marie-Christine Saragosse, affirme avoir appris avec stupéfaction que son mandat de présidente directrice générale du groupe était tombé, du groupe public était tombé. Mandat qui vient en effet d'être annulé, faute d'avoir transmis dans les délais des déclarations de patrimoine et d'intérêt. Madame Saragosse est à la tête du groupe public depuis 2012. Elle avait été reconduite le 5 octobre dernier pour un mandat de 5 ans. Elle aurait dû donc faire parvenir dans un délai de 2 mois à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique une déclaration de situation patrimoniale de fin de fonction, ainsi qu'une nouvelle déclaration d'intérêt, ce qu'elle n'a donc pas fait, Abdelhak El Idrissi. Situation vraiment inédite, et on peut se demander comment on en arrive là.
C'est un énorme raté et un raté personnel. La loi d'octobre 2013, dans la foulée de l'affaire Cahuzac, est très claire. Elle crée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle renforce les obligations de transparence concernant les élus, les hauts fonctionnaires et les patrons d'organismes publics. Et elle reprend aussi une disposition de 1995 qui prévoit déjà des sanctions claires en cas de manquement à l'obligation de déclaration, à savoir l'annulation du mandat pour les patrons d'organismes publics. Marie-Christine Saragosse est la première à subir une telle sanction, mais elle n'est pas la seule. Selon nos informations, d'autres dirigeants d'organismes publics viennent également de voir leur mandat annulé car ils n'ont pas rempli dans les temps leur déclaration. On peut se demander pourquoi la Haute Autorité n'a pas prévenu les personnes concernées avant l'expiration du délai de 2 mois. La raison est simple, la loi est très claire, elle n'est pas nouvelle et elle est connue. Surtout, la Haute Autorité n'a matériellement pas les moyens de faire ce travail. En tout, 16 000 fonctions sont soumises à l'obligation de déclarer patrimoine et intérêts. Et la Haute Autorité dispose de 50 agents pour les vérifier. Dans un communiqué envoyé aux salariés de RFI et France 24, Marie-Christine Saragosse se dit malgré tout stupéfaite de ne pas avoir reçu de demande formelle de la part de la Haute Autorité au moment de son renouvellement de mandat, ce qui selon elle avait été le cas en 2015. En tout cas, ce raté pourrait profiter au gouvernement car avec Radio France et France Média Monde, ce sont désormais 2 entreprises de l'audiovisuel public qui se retrouvent sans patron, autant d'obstacles en moins pour l'exécutif à l'aube d'une réforme du secteur qui s'annonce de grande ampleur et sans doute difficile pour les salariés.
12h46, l'actualité à l'étranger. Après les recommandations de la police qui préconisent qu'il soit inculpé pour corruption, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fait face ce matin aux appels à la démission. Le ministre de l'Éducation, chef du parti Foyer Juif, Naftali Bennett, déclare par exemple qu'accepter sur une période prolongée des cadeaux représentant de grosses sommes, ce n'est pas à la hauteur des standards d'une personnalité censée donner l'exemple. Fin de citation. La classe politique dans son ensemble attend maintenant une décision du procureur général pour qu'il décide ou non d'inculper donc le chef du gouvernement. Quant au Premier ministre, eh bien il assure ce matin que son gouvernement est stable. Étienne Monin.
Et ce matin, la réponse du Premier ministre vise les deux bords de l'incendie. Il répond à la fois sur le terrain juridique et politique. Sur le plan judiciaire, Benjamin Netanyahou poursuit ses attaques contre la police. Il a déclaré que les recommandations étaient partiales et qu'elles étaient pleines de trous comme le gruyère. Son avocat, de son côté, a contesté les montants des cadeaux et contesté aussi les contreparties dans l'affaire appelée l'affaire numéro 1000 qui touche au train de vie du Premier ministre. Ce volet judiciaire peut maintenant durer des mois avant la décision du procureur général. Le Premier ministre n'est pas tenu de démissionner tant qu'il n'est pas définitivement condamné. La politique israélienne va donc vivre encore un long moment sous l'influence de cette affaire. Et c'est le volet politique. La survie du Premier ministre tient à la solidité de sa coalition. Hier, les cadres du Likoud ont serré les rangs. Ce matin, le chef du Parti national religieux a apporté son soutien jusqu'à la décision du procureur. La politique du Premier ministre risque donc maintenant d'être polluée par cette affaire. Il est sous la menace d'un claquement de porte, donc sous l'influence renforcée des partis nationalistes et religieux.
La réunion ministérielle de l'OTAN qui se tient aujourd'hui et demain à Bruxelles pourrait être constituer une mise à l'épreuve pour l'unité de l'Alliance Atlantique. D'une part, il y a des appréhensions américaines sur l'initiative de défense européenne et d'autre part, il y a ces tensions bien connues entre les États-Unis et la Turquie sur la guerre en Syrie. Ce qui se passe en Syrie, Éric Biegala, bonjour.
Bonjour.
Alors, question, il y a 2 facteurs là qui pourraient déstabiliser cette unité. On peut se demander si l'OTAN est à même de survivre à terme à l'affaiblissement du rôle des États-Unis à la fois sur les scènes européennes et moyen-orientales.
Oui, Antoine, alors on n'en est pas encore à parler de la mort de l'OTAN, hein, bien sûr. Mais il y a manifestement une inquiétude américaine suite à l'annonce de la création de la PESCO à la fin de l'année dernière. Alors qu'est-ce que la PESCO ? C'est l'acronyme en anglais pour la coopération structurée permanente qui a été lancée par l'Union européenne et qui ressemble à une sorte d'embryon de défense européenne, mais que certains cercles américains regardent surtout comme un possible concurrent de l'OTAN à terme sur le champ européen. Pour le moment, les premiers projets de cette PESCO visent surtout à harmoniser ou à fluidifier les coopérations entre les différentes armées européennes européenne. On envisage par exemple la création d'un commandement médical européen, une force d'assistance médicale capable de se projeter sur certains terrains d'intervention et dont les médecins, les infirmiers et autres transporteurs travailleraient tous, quel que soit leur pays d'origine, selon des procédures communes. Mais la PESCO vise aussi à développer des instruments de défense communs, en clair des armes, comme une batterie d'artillerie mobile ou un véhicule blindé de transport de troupes qui serait commun donc aux armées européennes. Des projets qui seraient en partie financés par le tout nouveau Fonds européen pour la défense. Et c'est peut-être là que les Européens ont touché un nerf sensible chez les Américains. Les pays européens sont d'assez bons clients de l'industrie d'armement américaine et en l'occurrence les projets PESCO viennent ici lui faire tout simplement concurrence. Alors plus grave sur le front de la solidité de l'Alliance Atlantique est le coin aujourd'hui enfoncé entre deux membres de cette même alliance, les États-Unis et la Turquie, qui ne sont pas loin de se retrouver au bord de l'affrontement direct en Syrie. Les Turcs en effet ont lancé en janvier une offensive contre les Kurdes, qui sont là-bas les principaux alliés des Américains, qui les arment, qui les épaulent sur le terrain. Il y a quand même 2000 soldats américains qui sont déployés aux côtés des Kurdes et qui les appuient avec leur aviation. Mais le différend turco-américain ne sera probablement pas tranché dans le cadre de cette réunion des ministres de la Défense de l'OTAN aujourd'hui et demain. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, est attendu à Ankara pour ce faire. Ce sera ces prochains jours.
Merci Eric Biegala. On revient maintenant sur le mouvement de libération de la parole des femmes à propos notamment du harcèlement dans la foulée des hashtags Balance ton porc ou MeToo. C'est un autre hashtag, Mosquée MeToo, qui a permis à d'autres femmes de témoigner de harcèlement sexuel, voire d'agression, qui auraient été subies lors du pèlerinage à La Mecque. C'est un mouvement initié le 5 février dernier par une journaliste américano-égyptienne. Et ce hashtag a pris depuis, Nadine Epstein, a été utilisé des milliers de fois sur Twitter.
Et cette journaliste et écrivain américano-égyptienne, Mona Altaoui, a essayé de parler ouvertement des violences sexuelles qu'elle a subies pendant son pèlerinage en 1982, alors qu'elle était âgée de 15 ans. En 2015, cette musulmane libérale, comme elle se présente, avait écrit sur ce sujet tabou dans son ouvrage « Voile et hymen, pourquoi le Moyen-Orient a besoin d'une révolution sexuelle » dans lequel elle explique la difficulté de parler des agressions qui arrivent dans des lieux sacrés. Et s'appuyant, vous l'avez dit, sur le mouvement de libération de la parole des femmes, elle a créé hashtag Mosquée MeToo et en 24 heures, des milliers de femmes lui emboîtent le pas et témoignent à visage découvert, comme par exemple cette Indonésienne qui écrit « Je n'ai jamais autant été harcelée que dans la ville sainte » ou cette Écossaise « Les gens pensent que la Mecque est l'endroit le plus sacré pour les musulmans, donc personne n'y fera rien de mal. C'est entièrement faux », dit-elle et elle raconte « Un jour, quelqu'un a touché mes seins et les a pressés. J'étais choquée et ce que j'ai fait, c'est juste pleurer en silence. » 6000 tweets s'enchaînent, des paroles qui dérangent. Alors, ces femmes sont accusées de salir l'islam et l'éditorialiste du Guardian Aïcha Sarawari de prendre leur défense en soulignant que les femmes musulmanes, comme les autres femmes, souffrent de harcèlement, mais quand cela arrive dans un contexte religieux, on leur demande de se taire au nom d'une cause plus grande. C'est à la fois injuste et oppressant.
Nadine Epstein, merci. Retour vers notre invité Jean-Yves Rochex, donc professeur de sciences de l'éducation à Paris 8. On parle de ces réformes puisqu'aujourd'hui, en Conseil des ministres, nous avons eu cette adoption d'une réforme du baccalauréat. Peut-être, Jean-Yves Rochex, pouvez-vous nous proposer une lecture globale pour qu'on comprenne bien ce qui se passe? Vous avez dit tout à l'heure, tout va rapidement. Lecture globale des projets gouvernementaux en matière d'éducation.
Alors, c'est les projets gouvernementaux. C'est peut-être aussi des logiques plus larges dans lesquelles ces projets s'inscrivent, hein, qui sont de plus en plus, y compris à l'échelle internationale, le fait qu'on pense l'école plutôt comme un système de production de compétences au service des individus et de moins en moins comme une institution au service d'objectifs communs, de valeurs communes, de cultures communes, et donc avec la progression d'une logique de parcours individuel qui est massivement pensée avec l'autonomie accrue des établissements, la différenciation de l'offre scolaire dans les établissements. Donc cette logique d'individualisation est massivement pensée sur le modèle de l'offre et de la demande, où on aurait des élèves ou des familles qui seraient des consommateurs éclairés d'école et qui pourraient choisir dans une offre scolaire le plus tôt. Et là, on voit bien avec la cohérence entre logique de réforme du lycée, du baccalauréat, avec le choix de spécialités qui doivent préfigurer les choix à l'université. Donc on aurait des pré-choix de parcours universitaire post-bac qui se feraient quasiment dès la classe de seconde, voire dès la sortie du collège, comme si tous les élèves étaient des consommateurs éclairés ayant les dispositions pour choisir sur une offre scolaire de plus en plus diversifiée, de moins en moins commune.
Et donc, est-ce que c'est pas souhaitable finalement qu'ils le soient malgré tout, qu'on les incite à l'être en tout cas ?
Le problème, c'est qu'une politique, ça se fait pas avec du souhaitable, ça se fait avec du réel. Or, toutes les recherches, en particulier de type sociologique, montrent que les élèves, ce type de comportement d'élèves correspond au mieux aux élèves de milieux les plus privilégiés qui non seulement ont une parfaite connaissance, eux ou leur famille, des complexités du système éducatif, voire des implicites du système éducatif, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller immédiatement aux choix les plus utiles à court terme, mais qui vont penser que des choix les plus utiles à court terme peuvent être défavorables à moyen ou à long terme à l'université. Par exemple, découpler les humanités dites littéraires de la culture scientifique et technique, penser la philosophie seulement sur le pôle littéraire, ce qui est une absurdité que tous les philosophes récusent. Voilà. Donc, c'est pas le modèle des élèves, c'est le modèle des élèves de classe moyenne. Les élèves des milieux les plus défavorisés, eux, procèdent plutôt par choix à relativement court terme d'expérimentation. Nous-mêmes, d'ailleurs, l'avons en partie fait dans nos parcours. L'idée que nous aurions fait des choix de carrière dès la fin du collège ou le début du lycée, on pourrait interroger tous les gens autour de cette table. Je suis à peu près convaincu que personne n'a procédé comme ça. Donc, on a un modèle parfaitement, peut-être idéal, mais parfaitement abstrait, qui correspond pas aux élèves concrets et qui, de plus, accroîtra les inégalités sociales parce que tous les élèves sont pas disposés à fonctionner comme ça.
Merci beaucoup, Jean-Yves Rochex, pour la clarté donc de cette analyse globale. Un petit mot du temps avec un temps plus doux, mais toujours gris et pluvieux, notamment sur l'ouest, des températures de 3 à 12 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.